DW. Info Matin.
Mesdames et messieurs, bonjour, il est 7h en temps universel et 9h dans nos studios. C'est parti pour 30 minutes d'information et c'est avec Carole Assignon. Bonjour Carole.
Bonjour Cossy Vitiès, bonjour à toutes et à tous. En RDC, la grève des enseignants plonge les écoles dans le chaos à Goma. Les parents s'inquiètent.
La ville de Freetown a brillé hier à Berlin sous les projecteurs grâce à sa maire Yvonne Aki-Sawyer, récompensée pour son engagement exceptionnel. Tandis qu'en France, des femmes de chambre en grève dénoncent leurs conditions de travail. C'est ce que nous verrons dans notre grand reportage.
Et bien avant la suite de notre série, portons sur le Sahel dans les pays qui ont connu des coups d'État dans la région. Les juntes musellent la liberté des médias.
Info Matin, c'est aussi la chronique sportive. C'est avec Sophie Serbini dans une vingtaine de minutes. Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur la DW. On commence par le Flash Info et c'est avec Carole Assignon.
Volodymyr Zelensky est attendu ce jeudi à Bruxelles. Le président ukrainien doit participer à une réunion des ministres de la Défense de l'OTAN. Selon la porte-parole de l'Alliance, celle-ci alors que son plan de victoire sera ce jeudi sur la table des ministres de la Défense de l'OTAN réunis à Bruxelles. Plus de 2 ans et demi après le début de l'invasion russe, l'Ukraine recule sur le champ de bataille, notamment sur le front oriental du Donbass. À Bruxelles, au siège de l'Alliance, Volodymyr Zelensky aura l'occasion de détailler son plan devant les alliés. Il est également invité à un sommet avec les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne.
L'armée israélienne a mené mercredi, c'est-à-dire hier, des dizaines de frappes aériennes au Liban.
Des frappes qui ont fait au moins 16 morts dans une ville du sud du pays et provoqué d'importantes destructions près d'un mois après le début d'une guerre ouverte contre le Hezbollah libanais. Une attaque aérienne imputée à Israël a par ailleurs visé dans la nuit de mercredi à jeudi la ville côtière syrienne de Latakia et provoqué des incendies selon l'agence officielle locale Sana qui n'a pas fait état de victimes. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, cette frappe a ciblé un entrepôt d'armes. La Chine a procédé à 2 tirs d'essai de missiles pendant des manœuvres militaires autour de Taïwan en début de semaine, selon un responsable taïwanais de la sécurité. Lundi, Pékin a en effet déployé un nombre record d'avions militaires, de navires de guerre et de garde-côtes pour encercler Taïwan dans le cadre de sa 4e série des assises militaires à grande échelle en un peu plus de 2 ans. Durant ces exercices qui ont duré 13 heures, la Chine aurait procédé à des tirs d'essai de 2 missiles à l'intérieur des terres. Au Yémen, les États-Unis annoncent avoir frappé 5 dépôts souterrains de munitions des rebelles houthis. Une opération menée à l'aide de bombardiers stratégiques furtifs B2, selon le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin. Depuis des mois, les houthis qui contrôlent de larges pans du Yémen mènent des attaques contre Israël et les navires qui leur seraient liés. Ils affirment agir ainsi en solidarité avec le mouvement islamiste palestinien Hamas. Les États-Unis et le Royaume-Uni procèdent régulièrement de leur côté à des frappes contre des installations houthies en réponse à leurs attaques.
Au Chili, le Parlement a destitué 2 juges de la Cour suprême.
Et oui, cette décision est une première en 31 ans. L'un des juges destitués est Angela Vivanco, limogée le 10 octobre par la Cour suprême pour ses liens avec un avocat à qui elle aurait divulgué des informations judiciaires secrètes en échange de son soutien pour être nommée à la plus haute juridiction du pays. L'avocat est accusé de manœuvres illicites en tout genre et de versement de pots de vin pour faire plier la justice en faveur de ses clients. L'autre juge destitué par le Parlement est Sergio Muñoz, considéré comme l'un des plus influents magistrats de la Cour suprême. Il a été sanctionné pour manquement à ses devoirs. Il est accusé d'avoir fourni des informations privilégiées à sa fille, qui est également juge. Ces affaires ne laissent pas indifférent au Chili, un pays classé en 2023 29e sur 180 dans la liste des États les moins corrompus du monde par l'organisation Transparency International.
Merci Carole Assignon. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est 7h, pratiquement 5 minutes en temps universel.
DW.
En République démocratique du Congo, depuis la rentrée du 2 septembre dernier, plusieurs écoles primaires, publiques et catholiques conventionnées refusent d'accueillir les élèves. Les enseignants sont en grève, dénonçant la gestion déplorable de la gratuité de l'enseignement primaire décrétée par l'État.
En effet, la gratuité de l'enseignement primaire, coûteuse pour les caisses publiques, aggrave plus encore la précarité salariale des enseignants. Le reportage à Goma de Ruth Alonga.
Aziza Nyamwami, mère de famille à Goma, a inscrit ses enfants dans une école publique. Aujourd'hui, elle ne sait pas quoi répondre quand ils lui demandent de retourner à l'école. Elle craint que cette crise ne conduise à une année blanche. Les enfants nous dérangent du matin au soir. Ils ne font que pleurer et demander s'ils n'iront plus jamais à l'école. Nous ne savons pas ce que nous pouvons leur dire. Ils passent leur journée à vagabonder. Ils sont devenus des enfants de la rue. Les enseignants, de leur côté, refusent de retourner en classe sans ajustement salarial. Hangi Méthode, enseignant à Goma, dénonce la mauvaise gestion de la gratuité de l'enseignement. Selon lui, les salaires actuels sont dérisoires et ne permettent pas aux enseignants de vivre dignement.
Si les grèves persistent, c'est puisqu'il y a une gestion de la gratuité. Et la gratuité n'était pas mauvaise, mais qui a été mal gérée. Il fallait que le gouvernement augmente l'enveloppe d'une manière suffisante que l'enseignant noue les deux bouts de mois avec un salaire. Imaginez quand on demande 500 dollars, on nous fait 50 000 francs.
Espoir Aspirine, membre de la société civile locale, demande donc au gouvernement de puiser dans ses réserves pour financer la gratuité de l'éducation tout en assurant un salaire décent aux enseignants.
Au-delà de ce que la gratuité coûte à la République démocratique du Congo, mais nous encourageons le gouvernement congolais à tout mettre en place pour dire de multiplier des stratégies pour maintenir la gratuité. Vous savez, lorsque cette gratuité était instaurée, c'était comme un ouf de soulagement. Nous proposons également à l'État congolais de toucher même sur les fonds de réserve aux générations futures afin de maintenir cette gratuité.
Entre l'espoir des parents, la colère des enseignants et l'inquiétude de la société civile, la crise de l'enseignement en RDC s'installe dans la durée sans qu'une solution semble se dessiner. Avant l'instauration de la gratuité de l'enseignement primaire, les enseignants se plaignaient déjà de leur statut précaire, des retards dans le paiement et de la modestie de leurs émoluments. Désormais, ils redoutent que la situation s'aggrave avec le poids que la gratuité fait peser sur les finances publiques. Ruth Alunga Agoma pour la Deutsche Welle.
Et restons en République démocratique du Congo. Et selon le ministre congolais de la Justice, toute personne accusée de crimes dans l'est du pays ne sera pas à l'abri de la justice. Il réagissait hier à la décision de Karine Khan, le procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, de réactiver les enquêtes sur les crimes commis dans l'est du pays. Cette partie de la RDC est confrontée à des conflits armés opposant des groupes rebelles, certains soutenus par des pays voisins comme le Rwanda et l'Ouganda. Et l'armée est congolaise.
Au Congo-Brazzaville voisin, les ministres et autres fonctionnaires ne pourront plus voyager à l'étranger jusqu'à la fin de l'année. Une exception est faite aux missions impliquant le président Denis Sassou Nguesso. Pour les autres, les participations en visioconférence sont privilégiées. Selon une source gouvernementale citée par la presse, la mesure vise à réduire le train de vie de l'État qui connaît de grandes tensions de trésorerie.
D'après le programme des Nations Unies pour le développement, plus d'un milliard de personnes dans le monde souffrent de pauvreté aiguë, dont la moitié sont des mineurs.
Dans leur rapport annuel, l'agence de l'ONU et le centre de recherche Initiative d'Oxford sur la pauvreté et le développement humain s'alarment particulièrement du taux de pauvreté trois fois plus élevé dans les pays en guerre, alors qu'il n'y a jamais eu depuis la Seconde Guerre mondiale autant de conflits armés en 2023.
Un fait qui ressort du rapport est que les cinq pays qui comptent le plus des personnes très pauvres dans le monde sont à forte croissance démographique et trois pays sur cinq sont en Afrique. Il s'agit pour les cinq pays de l'Inde avec 234 millions de pauvres sur 1,4 milliard d'habitants, le Pakistan avec 93 millions de pauvres sur 236 millions, l'Éthiopie 86 millions sur 123 millions, le Nigeria 64 14 millions sur 218 millions d'habitants et la République démocratique du Congo avec 66 millions de très pauvres sur 100 millions d'habitants.
Bref, encore en Centrafrique à présent, suite au scandale en 2015 lorsque des casques bleus de la MINUSCA dans le pays avaient été accusés d'exploitation et d'abus sexuels, des mécanismes de prévention et de réponse avaient été instaurés. Cependant, ces violences persistent et sont rarement rapportées par les victimes, selon une enquête publiée hier mercredi dans Le Monde en collaboration avec The New Humanitarian. Ce silence s'explique par un manque d'information et de confiance envers la force onusienne, selon l'auteur de l'enquête.
Vous écoutez la DW.
Dans les pays du Sahel, selon bon nombre d'observateurs, les juntes au pouvoir ont accru la répression sur les médias au cours des dernières années, entravant leur liberté d'informer ou les contraignant à diffuser des programmes favorables aux militaires.
C'est le constat dressé notamment par Reporters sans frontières. Les journalistes font régulièrement face à des mesures d'intimidation, des menaces de mort et certains sont incarcérés, enlevés ou assassinés. Des détails avec Zanim Nitya.
Vivre loin de ses proches et être contraint de cesser ses activités de journaliste, c'est le calvaire auquel a été condamné Newton Ahmed Barry, journaliste burkinabé. La source de ses malheurs a été de manifester sa solidarité avec les médias internationaux interdits.
Ils sont passés à une autre étape qui consistait donc à porter atteinte à mon intégrité physique. Et évidemment, je courais le risque de me faire enlever et éventuellement de me faire tuer.
Selon Reporters sans frontières, des centaines d'autres journalistes au Sahel sont menacés et ne peuvent plus exercer leur métier. D'autres sont enlevés et dans le pire des cas, tués. Les cas les plus récents comprennent la disparition des 4 journalistes et chroniqueurs en juin et juillet dernier au Burkina Faso, dont Atiana Serjoulon, connu au Burkina Faso comme l'un des derniers journalistes osant traiter des questions militaires. Au Niger, Samira Sabou, blogueuse et journaliste indépendante, a été détenue secrètement pendant une semaine l'année dernière. Les victimes de ces violences sont ceux qui refusent de se plier aux injonctions patriotiques des autorités militaires, explique Malik Konaté, journaliste malien qui vit lui aussi en exil.
Donc les journalistes ont décidé de se taire et suivre la ligne ou bien de quitter le pays. Tel est mon cas. Tous ceux qui s'adonnent à traiter de l'information sont considérés comme des gens qui sont là pour déstabiliser le pays.
Camille Montagu de RSF Afrique subsaharienne évoque également l'utilisation des réseaux sociaux dans le bâillonnement de la presse.
RSF a observé plusieurs campagnes de dénigrement à l'encontre de journalistes, notamment en 2023. Dans les semaines précédant sa détention secrète, Samira Sabou a ainsi été visée par de nombreux messages à caractère haineux et par des menaces sur les réseaux sociaux.
Récemment, RSF et plus de 500 radios communautaires ont signé un appel pour les journalistes locaux au Sahel. Cet appel a été reçu par les autorités. Mais ce que les organisations de protection des droits des journalistes attendent, c'est un engagement à améliorer le paysage médiatique du Sahel.
Zanem Neti Zaidi. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a déclaré hier que la relation va s'améliorer entre la Côte d'Ivoire et les régimes militaires de l'Alliance et des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, s'il revenait au pouvoir. Les trois pays qui ont tourné le dos à l'ancienne puissance coloniale française entretiennent des relations tumultueuses avec certains de leurs voisins dans la Côte d'Ivoire qu'ils accusent de chercher à déstabiliser et d'être trop proche de Paris.
Au Nigeria, plus de 140 personnes ont péri dans le nord du pays après l'explosion d'un camion-citerne renversé autour duquel une foule s'était agglutinée pour récupérer du carburant. L'accident s'est produit mardi soir dans la localité de Maïa, dans l'état de Jigawa, à une centaine de kilomètres au nord-est de Kano, la principale ville du nord du pays.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Elle est une femme d'action, elle, c'est Yvonne Aki Soyer, la maire de Freetown, la capitale de la Sierra Leone. Elle a fait progresser sa ville dans de nombreux domaines, au point même d'en faire un exemple à suivre. La Fondation allemande pour l'Afrique a distingué son engagement en faveur du développement urbain durable en lui décernant son prestigieux prix.
Le prix lui a été remis par la présidente du Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, Bärbel Bass, en soulignant que Aki Soyer montre l'exemple et constitue une grande source d'inspiration pour les futures femmes politiques. Alors, qui est Aki Soyer ? Eh bien, Nico Fischer et Étienne Gattanasi nous brossent son portrait.
Parmi les chevaux de bataille d'Yvonne Aki Soyer, il y a assurément la protection de l'environnement. Depuis son arrivée à la tête de Freetown, elle a réussi à doter la ville de 160 réservoirs et systèmes de collecte d'eau de pluie. Elle a pris des mesures de lutte contre les inondations et s'est également investie en faveur du recyclage des déchets. Mais ce n'est pas tout. L'approvisionnement en eau de Freetown s'est aussi considérablement amélioré et ce, de manière durable. Des kiosques à eau installés un peu partout dans la ville permettent ainsi à de nombreuses personnes d'accéder pour la première fois à de l'eau potable. Et puis Yvonne Aki Soyer s'intéresse aussi à l'amélioration des transports. Ainsi, elle a commandé une étude de faisabilité pour installer un téléphérique à Freetown. Un projet qui permettrait de réduire les embouteillages et la pollution et qui permettrait d'améliorer la desserte de quartiers reculés. La Fondation allemande pour l'Afrique a donc choisi cette année de récompenser Yvonne Aki Soyer pour son engagement qualifié d'inébranlable et qu'elle estime aller bien au-delà des exigences de son poste. Élue une première fois en 2018, elle a été plébiscitée une seconde fois en juin dernier. Il faut dire qu'elle associe étroitement les habitants de la ville dans la gestion durable de la ville et dans le processus de prise de décision et de mise en œuvre.
Étienne Gattanasi, Yvonne Aki Soyer a été choisie par un jury indépendant de 20 membres parmi plus de 12 de candidats. Au Sénégal, l'ancien président Macky Sall dit avoir laissé un pays aux indications ouvertes. Il répondait ainsi au nouveau pouvoir qu'il a accusé d'avoir manipulé les chiffres des finances publiques dans un entretien accordé à l'agence de presse Bloomberg.
Et selon Macky Sall, la dégradation de la note du Sénégal par l'agence Moody's le 4 octobre dernier est directement liée aux déclarations faites par l'actuel Premier ministre. Cette note avait été réduite en raison de la hausse du déficit budgétaire et du niveau d'endettement observé entre 2019 et 2023 selon le ministère sénégalais des Finances et du Budget. On passe à présent au sport.
DW. Le sport.
Bonjour Sophie Serbini, on commence avec du football féminin puisque le Maroc a été désigné comme pays hôte de la Ligue des champions féminines de la CAF.
Et oui, la compétition se déroulera du 9 au 23 novembre prochain. 8 clubs seront en lice pour cette édition, dont le club local de l'AS FAR, les tenants du titre, les Mamelodi Sundowns ou encore le club sénégalais des Aigles de la Médina. Les vainqueurs recevront une récompense financière à la hauteur de 400 000 dollars. Tandis que les finalistes se verront attribuer 250 000 dollars. Depuis quelques années, le Maroc est devenu le pays du football féminin sur le continent. Le Royaume a déjà organisé la Ligue des Champions en 2022, ainsi que la CAN la même année, et la CAN féminine qui sera de retour au Maroc en 2025.
On est toujours en Afrique, Sophie. Le Camerounais Ahmad Kalkaba Malboum a été élu à la tête de la Confédération africaine des sports olympiques.
Et oui, il était déjà président du Comité national olympique sportif camerounais et également président de la Confédération africaine d'athlétisme. Ahmad Kalkaba Malboum prend désormais la tête de l'olympisme africain dans son ensemble à un moment crucial pour son développement. En 2026, la ville de Dakar va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Les villes du Cap en Afrique du Sud et du Caire en Égypte, qui rêvent d'organiser les Jeux olympiques dans les années 2042, déposer leur candidature. On rappelle que depuis 1896 et l'instauration de l'ère moderne des Jeux olympiques, aucun pays africain n'a accueilli la compétition.
Enfin, un mot de football avec l'affaire Kylian Mbappé. La star a repris le chemin de l'entraînement.
L'attaquant français a été vu au centre d'entraînement du Real Madrid, d'abord pour une séance d'entraînement individuel le matin, puis collectif l'après-midi. Si le club madrilène n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet, selon la presse espagnole, les dirigeants soutiennent le joueur à 100%, alors que celui-ci serait visé par une enquête pour viol suite à son passage en Suède dans la capitale Stockholm la semaine dernière. Si le parquet suédois a bien confirmé qu'une enquête était en cours, il se refuse toujours à donner plus de détails sur l'affaire.
Oui, Sophie Serbini, merci à vous. On vous retrouve ce soir pour parler de Thomas Tuchel.
Et oui, nommé entraîneur de l'équipe d'Angleterre hier, le technicien allemand a de nouveau choisi l'étranger après son passage au Bayern Munich. On s'intéressera aux réactions ici, en Allemagne, où il reste un personnage assez clivant.
Donc, rendez-vous pris, c'est à 17h, temps universel, pour une nouvelle édition de la DW Afrique.
DW. Vue d'Allemagne.
Le grand reportage international du jeudi matin en France, ce jeudi, cap sur la France bien sûr, où cela fait près de 2 mois que des femmes de chambre d'un grand hôtel basé sur Rennes, près de Paris, sont en grève. Pas de travail depuis le 19 août dernier.
Et oui, ces femmes, pour la plupart d'origine africaine, demandent des hausses de salaire. Elles dénoncent également leurs conditions de travail. Une révolte pour plus de dignité, c'est un reportage de Nadir Djenad.
Il faut payer, augmenter les salaires.
Munis de banderoles, de mégaphones et d'une sono, des employés de l'hôtel Première Classe et Campanile de Suresnes, en région parisienne, font entendre leur voix. Ce sont 12 femmes de chambre d'origine africaine qui crient leur colère à la direction de l'établissement. Elle demande surtout des hausses de salaire. Dans cet hôtel, une femme de chambre gagne le salaire minimum à temps plein, soit 1600 euros. C'est insuffisant, selon Kanouté Bintou, âgée de 46 ans. Elle travaille dans l'établissement depuis 2003.
Je suis mariée, j'ai des enfants, les salaires, ça, pour moi, c'est un peu petit.
Camara Aïssata est la doyenne des femmes de ménage de cet hôtel. Âgée de 50 ans, elle exerce ici depuis 2002.
On a besoin d'augmentation de salaire. On a besoin de primes exceptionnelles pour le pouvoir d'achat. Il y en a marre de la
galère. L'autre revendication principale concerne les conditions de travail, jugées très difficiles. Âgée de 36 ans, Tukara Kande est première femme de chambre et travaille dans cet hôtel depuis 2013. Elle est la porte-parole du mouvement et représentante du syndicat CGT.
Il y a des jours que ça arrive qu'on fait beaucoup de chambres. Il y en a qui peuvent faire, par exemple, 20 et quelques. Ça peut aller jusqu'à 25. Pour faire les lits, là, c'est pas possible du tout pour nous parce que c'est trop dur. Elles sont trop lourdes, les matelas. C'est pas facile parce que nous, on travaille toujours avec les housses. Il y a 3 formes de chambres qui sont actuellement en arrêt maladie, plus de 2 ans, 3 ans et 4 ans. Tout ça, c'est le conditions de travail, c'est le problème des genoux, le problème de dos.
Contactez la direction du groupe Louvre Hôtel, propriétaire des hôtels Première Classe et Campanile, dit avoir, je cite, toujours été soucieuse d'assurer à ses collaborateurs des conditions de rémunération avantageuses, affirmant qu'en 2022, des augmentations de salaire de l'ordre de 8% en moyenne, soit plus de 150 euros par mois, pour les personnels non cadres, ont été accordés. Pas de quoi convaincre les grévistes qui poursuivent leur mobilisation. Ce n'est pas le premier mouvement de grève de ce genre. Pendant près de 2 ans, de 2019 à 2021, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles à Paris ont fait grève pour dénoncer leurs conditions de travail et les mauvais traitements. Elles obtiennent satisfaction grâce à la conclusion d'un accord qui prévoit notamment des revalorisations salariales de 250 à 500 euros. Cette lutte est devenue un symbole du combat des travailleuses dites invisibles, comme l'indique l'une des porte-paroles de ce mouvement, Rachel Keke.
Le métier que nous faisons dans ces grands hôtels, c'est un métier qui est très invisible. Et un travail qui n'est pas visible, il y a plus de maltraitance et plus de souffrance à l'intérieur. C'est parce qu'on est des immigrés qu'on nous traite comme ça, en fait. Sortir du silence, c'est très important parce que ces métiers que nous faisons sont les métiers qui détruisent le corps. Donc, si tu dénonces pas, tu dis pas stop. Qui va le faire à la place ?
Ce qui revient souvent dans les mobilisations, c'est la question du salaire. Mais pas seulement. Guy Groux, directeur de recherche au CEVIPOF, le centre d'études de la vie politique française, spécialiste des mouvements sociaux et des syndicats, observe cela depuis plusieurs années.
Cette reconnaissance, bien sûr, elle passe par le salaire. Mais elle ne passe pas que par cela. Cette reconnaissance, qui implique bien sûr, ou qui corrèle la notion de dignité, est devenue extrêmement importante. Alors la CGT, incontestablement, elle avait évoqué, notamment au niveau des conflits ouvriers, les derniers conflits dans l'automobile, la question de la dignité, en disant qu'ils ne demandent pas simplement à être mieux payés, ils demandent aussi à être reconnus par rapport à ce qu'ils font dans le travail et comme être humain. Dire l'humain, c'est évidemment dire la dignité.
Selon Guy Groux, ces femmes sont d'autant plus opprimées et exploitées qu'elles sont vulnérables du fait de leur origine étrangère, leur faible niveau d'éducation et de qualification. Et cela s'ajoute une autre peur insidieuse, explique Tiziri Candy, animatrice syndicale et juriste au syndicat CNT Solidarité.
Des salariés qui sont en France depuis 10, 15, 20 ans, maintenant pour renouveler leur titre de séjour, elles doivent prendre des rendez-vous très très tôt, tout se passe par internet, etc. Donc il y a vraiment des difficultés. Et comme les titres de séjour sont souvent liés au travail, bah en fait quand tu perds ton travail, tu perds ton titre de séjour et inversement. Et les patrons le savent très bien et c'est d'ailleurs comme ça en fait que se passe cette exploitation.
Les femmes de chambre de l'hôtel de Suresnes entendent bien mener leur combat jusqu'à ce que leurs revendications soient acceptées. Leur modèle est Rachel Keke que vous entendiez un peu plus tôt. Depuis son mouvement de grève avec ses collègues entre 2019 et 2021, elle est devenue députée du parti de gauche La France Insoumise en 2022. Première femme de chambre à siéger à l'Assemblée nationale. Elle encourage aujourd'hui ces femmes à prendre leur destin en main.
C'est pas parce que tu fais le ménage que tu ne peux pas faire de la politique. Il faut faire de la politique, il faut s'occuper de la politique, qu'on décide de notre vie.
Solidarité !
Nadir Djenad à Paris pour la Deutsche Welle.
Merci Nadir Djenad, le magazine que vous pouvez retrouver sous forme de podcast sur notre site internet, podcast où il est question d'un jugement historique. Il est aussi question d'un jugement historique en Allemagne cette semaine. Le tout premier ex-agent de la Stasi, la police politique de l'ancienne Allemagne de l'Est, est condamné pour meurtre. Notez aussi que le président américain Joe Biden se rendra début décembre en Angola, reprogrammant ainsi un voyage initialement prévu début octobre et qu'il avait annulé en raison de l'ouragan Milton en Floride. L'Angola abrite l'un des plus grands importants investissements américains dans des infrastructures sur le continent africain, une voie ferrée reliant le port angolais de Lobito à la République démocratique du Congo et la construction d'un embranchement vers la Zambie.
Et un rappel aussi, vous pouvez continuer de tester vos connaissances sur les programmes de DW Afrique. La question actuelle, quelle émission de la DW vous pouvez retrouver en podcast sur les plateformes de streaming, sur notre site et via l'application DW. Vous avez trois réponses au choix. Droits et libertés, vue d'Allemagne, capsule santé, le journal ou encore pulsation. Notez que la date limite pour participer est fixée au 5 novembre et tous les détails sur ce concours sont à retrouver sur notre page internet dw.com/france.
Oui, Carole Assignon, nous sommes arrivés à la fin de cette édition, l'essentiel de l'actualité de ce jour.
Eh bien, retenir dans l'actualité la grève des enseignants en RDC où les parents d'élèves sont inquiets. Nous avons aussi parlé de la mère de Freetown, Yvonne Akisauer, qui a été récompensée à Berlin pour son engagement exceptionnel. Et puis notre série sur certains pays du Sahel où il est de plus en plus difficile pour les journalistes de travailler librement.
Merci à vous de nous avoir suivi. Le rendez-vous, c'est 17h en temps universel pour une nouvelle édition. C'était Carole Assignon et moi, Kossi Vitiassou. On vous dit au revoir. Tchuss.
Joseph.
Allô, il y a quelqu'un.
Il y a quelqu'un.
La rare, tu refais quoi?
Ça fait 15 ans qu'on écoute Studio Joseph à Blois
sur le 91.1
et maintenant à Vendôme
sur le 91.7.
C'est bien de me parler au micro.
Ah ah.
T'es enregistré?
Pour faire quoi?
Too much rhythm.
Stop the drum.
Too much.
much confusion.
Stop the drum.
Too much vibration.
Stop the drum.
Could cause rebellion.
Stop the drum. Stop, boys, I said stop. Stop, boys, I said stop. Stop, boys, I said stop. Boys, I said stop. Boys, I said stop. Stop, boys, I said stop. Stop, boys, I said stop. Stop, boys, I said stop. Boys, I said stop. Boys, I said stop.
Too much rhythm.
Stop the drum.
Too much confusion.
Stop the drum.
Too much vibration.
Stop the drum.
Could cause rebellion.
Stop the drum.
But what you stop for? Them drums making me feel so nice. Look.
Beat, boys, I said the beat. Beat, boys, I said the beat. Beat, boys, I said the beat. Boys, it's all sweet. Boys, I said the beat.
Tu peux
disparaître quand vient l'automne et vivre avec les animaux. Fondre la neige, dormir dans l'eau. Dis-moi quelque chose et même s'il n'y a rien qui te revienne, je me souviendrai pour toi. J'ai gardé le bout de tout ça, je crois.
C'est quoi déjà? Ah oui, Studio
Zef.
Studio Zef.
Stars, grab a drink or a spark before the final song.
some facts, but I have a lack of vision. A lake full of ghosts, does it feel like being the host? To sink deep and get lost, whatever it may cost. I will praise your kindness. A flying drop of water. We know that sooner or later, pavement always win. Could you teach them how to fly, or show us how to fall while the falling's good? Maybe you're way too young to know. Girls, help me out. Sewing parachutes. Girls, can't you see the age you're dropping plans on me? Girls, help me now. Making umbrellas. I don't want bloodstains from these gentle old fellows. My rain friend.
Un éléphant
dans ton cœur.
On n'a pas ce qu'il nous reste. Il nous manque le plus important.
Qu'un éléphant dans ton cœur.
Je serais étonné, qu'il se laisse prendre vivant.
Qu'un éléphant dans ton cœur.
Avec Studio Z, vous aurez un vent de fraîcheur chaque matin.
Studio Z, agitateur de fréquence.
Et on est sur Z91.1.
Between the letter house sales of Shakespeare in North Point. For the first time alone, as I'm wondering, I take the time to look at the wooden staircase. The rain, it pours down on me, and it's cold and chilling. And the coat I've just built is not such a good shelter. I'm drenched to the core. Bar be my shelter, because it's got a roof, and I could sit at this table lit with a candle. I would drink in order to warm me up on Western and the Vision. Burn is garbage and crap. The body of a dead cat is bringing tears to my eyes. She looks like she's slipping. I wouldn't have noticed her. I wouldn't have noticed her. If it wasn't that remarkable. Laying on the ground, I wouldn't have noticed her. I wouldn't have noticed her. If it wasn't that painful, if it wasn't that awful.
Bien sûr, je crois bien qu'il y pense. J'affuse ses sens. Quand moi-même et mes copines, on danse le mambo. L'amour, comme tout ça, se dépense. Et penses-tu que je les vaux? Et je danse le mambo. Je me change, je prends soin de tous les cœurs gros. Oublie tes soucis, mon ange, j'ai toujours su aimer comme il faut. Et que ça glisse, pose ta main sur ma cuisse. Et que ça glisse, pose ta main sur ma cuisse. Quand même, qu'elle est belle, t'es vêtue. Caché sous son chapeau. L'amour est tout ce qu'il y a. Et ce qu'il y a de plus beau quand elle danse le mambo. Et que ça glisse, pose ta main sur ma cuisse. Et que ça glisse, fais tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut.